demander de laisser la place à Monsieur le professeur Garcia Berrio, qui a bien voulu nous faire son discours en français. Je le remercie beaucoup.
Bonjour, moi je remercie vraiment l'invitation pour participer à ces colloques organisés pour mon vieil ami, professeur Fumaroli, et pour M. Compagnon, le professeur Compagnon. Les titres, à peu près, restaient les mêmes qui étaient annoncés sur le programme, mais on peut ajouter encore le deuxième titre. Une clairvoyante vision européiste de Jorge Guillén. Les chroniques parisiennes de Guillén entre 1921 et 1923. La génération d'écrivains et d'intellectuels espagnols avec laquelle le siècle commença est généralement connue sous le nom de génération du 98, génération del 98. Cette appellation précise l'année 1998, année où l'Espagne perdit de manière désastreuse ses dernières colonies, Cuba, Puerto Rico, les Philippines. Influencée par l'état dépressif de cette défaite, engendra les principaux artistes de 98, Unamuno, Valle Inclán, Baroja, Azorín, Antonio Machado ou Ángel Ganivet, concentrèrent leurs réflexions plus mélancoliques que régénérationnistes sur l'assimilation douloureuse du problème intérieur de l'Espagne sans songer à s'interroger sur les perspectives des relations de la nation espagnole avec ses voisins européens. Dans les domaines spécifiquement culturels, l'ex-abrupto bien connu, bien ou mal compris, que le leader intellectuel de cette génération, Miguel de Unamuno, prononça, il disait, que ce sont eux qui inventent au sujet des voisins européens, est très illustratif de l'esprit du programme général de réclusion nationaliste auquel nous faisons allusion. Quelques détails d'ordre personnel, comme la familiarité avec le préexistentialisme qui est archégardien de la formation philosophique de Miguel de Unamuno, la parfaite culture française de Machado, les prix Nobel d'histologie de Cajal, ou que le diplomate Ángel Ganivet s'est suicidé à Riga, n'atténuait que très peu le panorama dominant des répressions nationales de son de 98. Du caractère accessoire de tous ces détails mineurs, nous pouvons induire qu'avec la dominante nationale de leur fixation sur les problèmes de l'Espagne, les protagonistes de la génération du 98 prolongèrent jusqu'aux deux premières décades du XXe siècle l'isolement plusieurs fois séculaire d'une Espagne, autrefois hégémonique en Europe, mais depuis renfermée sur elle-même pendant des siècles, dans l'autophagie de son rêve baroque de décadence. Il faut aussi ajouter à ce processus le décrochage des poètes espagnols avec la modernité romantique européenne. En définitive, et pour mieux illustrer ces tendances, tandis que pendant les premières années du XIXe siècle, des nations comme la France et l'Allemagne complétèrent leur décisif effort de refondation moderne de leur université, l'Espagne les fermait officiellement de par la méfiance criminelle de l'unique roi Ferdinand VII. Dans la ligne de la pesante inertie de cette tradition, les sons des lettres du 27, García Lorca, Luis Cernuda, les nouvelles Vicente Alexandre, Rafael Alberti, et plus spécialement ceux qui sont appelés les poètes professeurs Jorge Guillén et son fraternal ami Jaime Salinas, ainsi que Damaso Alonso, apportèrent à la littérature de la culture nationale espagnole, à partir de la deuxième décade du XXe siècle, un nouvel esprit d'osmose d'internationalisme qui est en rapport étroit avec le congrès, le colloque qui nous réunit aujourd'hui. Ici même, dans ce centre décisif à bien des égards de l'européisme culturel que représente le Collège de France. Pour les intellectuels et les hommes de lettres de la génération espagnole de 1927, l'exil qui fut suite à la guerre civile qui prit fin en 1939 rendit l'internationalisme culturel obligatoire. En effet, Lorca assassiné, seul resté en Espagne dans un relatif ostracisme Vicente Alexandre, Gerardo Diego et Damaso Alonso. Parmi les autres, l'exemple de Jorge Guillén est significatif et c'est la raison par laquelle je l'ai choisi pour illustrer ici la thèse thématique de cette réunion française de la Société européenne de la République des Lettres. J'ai eu personnellement la chance de connaître et de fréquenter pendant des années Jorge Guillén, qui peut être considéré comme la tête intellectuelle avec Salinas de cette génération. Son œuvre poétique, réunie initialement dans un unique livre cantico, méticuleusement élaboré pendant 30 ans, fut ensuite complétée par une série d'œuvres pour enfin constituer l'ambitieux ensemble unitaire de Aire Nuestro. Il s'agit d'une vocation créatrice, fermement et même intensément globaliste et architectonique, qui fascina alors un esprit comme celui de Curtius, qui arriva même à la rapprocher de la culture, de l'architecture constructive de Dante dans la Divina Commedia. De cette vision globaliste de la géométrie de l'œuvre poétique comme système centreux de correspondance et de symétrie, la poésie pure de Guillén, connue dans les décades centrales du XXe siècle, un prestige extraordinaire qui situa la solidité de sa construction spécialement en ce qui concerne Cantico, à la première place de la poésie de la génération du 27, en concurrence même avec la grâce spontanée de García Lorca. Malgré une certaine dévaluation plus récente de la poésie de Guillén, il est indéniable que ce poète, dans l'ensemble de son œuvre et de sa pensée culturelle et littéraire, est l'un des premiers intellectuels espagnols ouverts à l'Europe. Comparable même avec celui qui est pour nous tous notre penseur national, Ortega y Gasset, est d'une plus grande profondeur intellectuelle que l'européiste officiel Salvador de Madariaga. C'est du fait de ce profil d'internationalisme culturel de Guillén, européiste influencé par la France au début des décisives années 20, qu'il m'a paru exemplaire de les choisir aujourd'hui. Si pour les sommes du 98, la particularité du cas espagnol a pu être symbolisée par les désastres coloniaux de leur vieil empire, pour ceux de 27, la différence incontournable face à l'Europe a résidé dans l'absence, en tant qu'expérience propre, de l'enseignant terrible que pour les Européens français, anglais et allemands a représenté la guerre de 14-18. L'implication d'une Espagne neutre dans les conflits se limita à des prises d'opinion divergentes, tandis que n'importe quel Européen ne sait que trop bien à quel point les terribles conflits faucha parmi les millions de victimes de nombreuses jeunes têtes européennes de la science, de la littérature et de l'art des plus prometteuses. Jorge Guillén, né en 1893, et formé en langue française lors de ses études en Suisse de 1909 à 1911, s'installa à Paris en 1917, où il fut lecteur d'espagnol à la Sorbonne jusqu'en 1923. Puis, de 1920, il fut correspondant du journal La Libertà. Ses chroniques parisiennes pour ce journal et pour El Norte de Castilla documente les points de vue du grand homme de lettres espagnol sur le début de la construction du nouvel esprit de concorde européen impulsé par la supériorité morale de ses intellectuels et à contre-courant des mentalités circulant des masses populaires, exacerbées pendant les années 20 et 30 pour les souvenirs des terreurs bellicistes connues et de l'indésirable perspective de calamités futures imminentes. C'est ce sentiment du cadre agonique de l'après-guerre qui s'imposa en premier aux chroniques parisiennes du jeune Guillén. Une situation étouffante de sa première collaboration pour La Liberté, intitulé 1921, et daté du 6 février de ces mêmes années. Je lis un peu de cet article. Dice Guillén, malheureux 1921, c'est un fils de la guerre. Engendré dans ses entrailles violentes, il incarnera fatalement la maladie, la misère, l'injustice. Et enfin, de mauvaise mère, dans les ruisseaux abjects que lui servira d'école et toutes les vénalités serviront de pâture à son cynisme. Parce que c'est la plus grande de ses disgrâces. Bien que tant d'angoisse trouble son esprit, il est suffisamment lucide pour comprendre que tous ses tourments proviennent du mal de la guerre, dans la paix. Dans la paix, il trouverait les baumes définitifs. Mais en vain, l'intelligence conçoit, c'est possible, que la douleur soulage la douleur, que les désolations mettent fin aux désolations. Aux années après de la guerre succèdent les années après de la paix. Une guerre en armes. Fin de la citation. Installé à Paris en plein conflit 1917, le jeune lecteur de la Sorbonne avait été témoin du dur sacrifice des gardes français. Et c'est sous cet angle qu'il aborda ses chroniques des premières années 20 sur les souvenirs des personnages disparus. Certains d'entre eux, plus anonymes, comme par exemple le professeur de littérature français de Fribourg nommé Pierre-Maurice Masson, mort en avril 1916 à l'occasion de la publication de ses correspondances de guerre. Mais aussi d'autres plus illustres, comme le jovial Apollinaire, décédé, comme on sait, décédé des séquelles de ses graves blessures sur le front, est enterré le 9 novembre 1918 dans, comme disait Guillaume, les Paris pavoisés de l'armistice. La partialité française dans la perspective de Guillaume sur la guerre et la situation de l'après-guerre reflétait nécessairement une focalisation très éloignée d'un point de vue plus européen. Ainsi, effectivement, les mentions aux anciens belligérants non français sont rares, même si elles ne démontrent pas d'hostilité, comme l'éprouve cette unique référence aux Boches. Dans tous les chroniques de Guillaume, qui, cette citation sort d'une autre citation empruntée de compassion, prise à la correspondante de Pierre-Maurice Masson, antérieurement citée. Et là, reproduit cette citation de Masson. Il est certain que nous autres Français, nous représentons cette fois-ci la justice et que nous sommes ses serviteurs. Mais que diront les pauvres Boches, poignardés par les Cosaques et détruits par nos canons. Guillaume ne manque cependant pas de constater les fortes réticences chauvinistes des différentes nationalités européennes, comme le démontre ces témoignages facieusement ironiques de la chronique intitulée « Una nación no se enamora nunca », une nation n'est jamais amoureuse, qui finit par la conclusion de Manrique, le personnage intégriste du colloque de Guillaume. « Pauvre nation, dit Manrique, elles ne peuvent que se haïr. » Ironie, cependant répétée dans d'autres chroniques, dans des lamentations antinationalistes de Guillaume, sous lesquelles vibrait, sans doute, en 1921, un idéal pan-européen pas encore totalement formé, comme on peut le constater dans son chronique significativement intitulée « La Internationale de los Nacionalismos », « L'Internationale des Nationalismes ». La proximité de la fin du conflit, à peine 200, brillait la perspective de tous, telle que la percevait Guillaume, qui la centrait plutôt sur des mesquines circonstances économiques, réparation des guerres, réajustement financier, plus sur ça que sur des idéaux spirituels élevés. Guillaume transcrivait régulièrement dans la plupart de ses chroniques cette idée très populairement répandue d'avoir militairement gagné la guerre pour perdre économiquement la paix, et spécialement dans cette cet article intitulé « Vencer no es ganar »,« Vaincre n'est pas gagner » de 1921. Et autre article, « Los posguerreros », les après-guerristes, l'année suivante, où il résumait « Après-guerre, lutte économique, rancœur nationale, équilibre et escamotage d'hommes d'État, oui ». Tout ceci est très intéressant, mais qui se souvient de l'homme de l'après-guerre? Vers 1920, les moments n'étaient guère propices, ni l'humeur des mentalités nationales torturées prêtes pour faire le grand saut collectif des magnanimités dont aurait eu besoin une proclamation pan-européiste décidé. Sans oublier que les articles parisiens de Guillaume appartiennent au genre journalistique de la chronique dont la nature est celle de refléter des états objectifs d'opinion communes circulantes, on peut cependant constater qu'il ne manque pas dans les articles de Guillaume de cette année-là des témoignages de son talent ouvert, tolérant et proto-européiste. Comme premier exemple, on peut citer la participation constante de Guillaume à la vie culturelle de la République des Lettres à Paris. Guillaume a utilisé exactement cette expression « République des Lettres », dont il était assidu et qui valorisait avec sagacité. Le jeune intellectuel espagnol y voyait les vases d'un futur humanisme international transeuropéen. Le second aspect plus ponctuel, mais en continuité avec les précédents, c'était l'absence de préjugés nationaliste avec laquelle Guillaume observait les comportements des scientifiques et des intellectuels français le plus distingué en présence du savant allemand Albert Einstein, conférencier dans ces mêmes collèges de France lors des inoubliables sessions du printemps 1922. Les chroniques parisiennes de Guillaume constituent une référence fondamentale, très peu reconnue jusqu'à présent, pour la modernisation de la culture espagnole dans son ensemble dans les années 20. Ce sont certainement les spécialistes français de cette période si présente qui sont le plus à même de décider de son intérêt, beaucoup plus que moi-même, surtout dans les courts laps de temps dont je dispose pour cette analyse. Cependant, l'analyse des événements publics, des nouveautés éditoriales et des actes culturels de tout genre subissent personnellement par Guillaume, dont un aperçu d'intelligente perspicacité critique du jeune intellectuel espagnol dans l'environnement de la culture française qui était la sienne. Guillaume a en effet suivi avec une grande fidélité les célébrations des centenaires de Molière en 1922 ou de Ronsard en 1924, ainsi que la première centenaire de Baudelaire en 1921, là même où se trouva sa maison natale rue Hautefeuille, ou encore les comptes rendus réguliers de la correspondance de Mallarmé publiée à l'anniversaire de sa mort en 1924. Sans oublier la série d'articles décisifs qui célèbrent la grandeur créatrice de Flaubert en décembre de 1921. Ce qui ressort de tous ces textes n'est pas atteint la rémémoration objective des faits pour le lecteur espagnol que l'animation ironique de ses chroniques. La dévotion de Guillem, poète intellectuel pur, pour l'œuvre, la figure de Paul Valéry est bien connue. Ce n'est pas en vain que Guillem a décidé à dédier à Valéry l'un de ses premières chroniques parisiennes, la troisième en janvier de 1921, où Guillem, qui n'était ni pressé ni précoce dans la gestation de son œuvre poétique, mettait en valeur ce qu'était pour lui la lenteur de Valéry, comme l'illustre la publication tardive de la jeune Parc. En même temps qu'il exaltait la discipline de l'imagination, comme, disait-il, mathématique de l'image et du rythme dans une passion infuse en chiffres. Dans ces mêmes lignes de grande dévotion et discipline, Guillem ne pouvait évidemment pas manquer les trois célèbres conférences de Valéry au Vieux Colombier. En les célébrant dans son compte-rendu conjointement avec Proust comme deux glorieux tartifs. Citation. Quelle prodigieuse leçon de calme et de lenteur, s'exclamait Guillem, à une époque qui, si on pouvait la résumer en un mot, ce serait par les mots pressés. Mais au-delà de ces constatations qui soulignent une admiration connue et avouée, ainsi que la convergence des disciples de Guillem envers Valéry, l'ensemble de ces chroniques établit clairement d'autres itinéraires aux résultats créateurs qui se révéleront décisifs pour les poètes espagnols. De manière non équivoque, les modèles français illuminent les chroniques de Guillem que jusqu'alors passèrent presque inaperçus d'un Guillem récemment marié à une jeune parisienne distinguée, la belle Germaine Cohen. Ce que nous devons considérer en premier lieu et qui touche au processus de création tel qu'il se consacrerait par la suite dans les célèbres sonnets métapoétiques de Guillem en Cantico hacia el poema, c'est la priorité du rythme dans la conscience poétique. Siento que un ritmo se me desenlaza. Je sens qu'un rythme se dénoue en moi. Les chroniques de Guillem signalaient cette convergence des points de vue avec la pensée poétique de Valéry. Cependant, cette idée fondamentale a aussi d'autres origines françaises. On peut retrouver, par exemple, la trace de la grande admiration de Guillem pour Flaubert, ce qui Guillem différenciait les constituant nécessairement compatibles d'une pulsation grandiose de l'impulsion préalable et secondée par l'assaisonnement d'une méticuleuse réalisation de l'écriture dans les images populaires du fleuve en Castille. Il, Flaubert, ne sort jamais de son lit. Il ne se permet jamais une invasion de ses rives. Ce ne sont pas seulement les sources principales de Guillem, Valéry ou Flaubert et finalement Proust, qui annonçaient dans les chroniques juvéniles du poète espagnol cosmogonique, qui se constituerait progressivement depuis Cantico à Il Nuestro, car d'autres influences nichaient dans des détails plus cachés de ces chroniques parisiennes, mais néanmoins fondamentaux, ne sont pas moins révélatrices. Pour être bref, je me référerai seulement à l'un d'entre eux. Les caractères d'actualité de la chronique caractéristique des articles parisiens de Guillem nous montrent les subis élogieux de l'œuvre poétique de Jules Supervielle. Guillem consacra à l'œuvre du poète pur français quatre de ses chroniques. La première, dédiée aux deux poésies, la poésie nouvelle et l'invitation à la solitude, tous deux d'octobre 1921, et plus tard de ses apports occasionnels. Poésie française, Gilles Supervielle, de 1929, pour El Norte de Castilla, et poésie centrale, publiée en août de 1930 dans la Gaceta Literaria. L'attention et l'estime de Guillén pour la poésie de Supervielle sont absolues dans ces quatre écrits parisiens de Guillén, même si elles sont moins mises en valeur dans la critique de Guillén que celle de Valéry. Mais comme nous y sommes engagés, nous nous concentrons ici sur un unique détail révélateur de cette admiration. Dans l'invitation à la solitude, Guillén citait les vers de Supervielle et pour toute âme avoir l'âme de la fenêtre. Guillén le traduisit avec une cadence manifeste de chansons andalouses. Quien no tuviera más alma que l'alma de la ventana. Tout cela pour signaler ce nouveau poste de vigie, d'origine vaudelairienne, qui exalte une perspective fermée sur la ville, qui guette depuis l'intérieur d'une pièce. Ce petit détail, qui n'aurait pu être qu'un simple incident, prend une importance révélatrice quand on l'identifie comme perspective poétique et existentielle dans les coordonnées posturales de Cantico, d'où résulta même le poème initial de l'œuvre, Más allá. El balcón, los cristales, le balcón, les vitres, unos libros, la mesa, quelques livres, la table, nada más eso, sí. Rien d'autre, si. Maravillas concretas, de merveilles concrètes. La chambre tour de Vigy, avec sa fenêtre vitrée, sont les coordonnées essentielles que j'inférerai moi-même dans mon livre français sur Guillén en 1985, comme un symptôme essentiel de la concentration phénoménologique du poète et que dans un autre de mes livres postérieurs, Mediaciones, sur le poète américain Walt Stevens, rival involontaire de Guillén dans sa vénération pour Valéry et Supervielle, j'ai souligné le protagonisme postural thématique en connexion avec le grand poème de Stevens, An Ordinary Evening in New Haven. Pour conclure, venons à la chronique de Guillén du second des événements cités antérieurement. La mémorable intervention d'Einstein dans ce même salon du Collège de France en 1922. La raison de l'emphase que nous mettions sur cet événement n'est pas seulement due à la coïncidence du lieu, mais surtout aux symptômes de la nationalité allemande du grand savant admiré par tous. Ce qui nous renvoie à une fois de plus à la question thématique de ces colloques. En effet, la chronique de Jorge Guillén assume centralement la question du préjugé nationalisme en relation avec Einstein. Est-il le fait d'entrée de jeu en affirmant une marque de mépris avec le préjugé circulant du nationalisme. Je le lis, je me permets de le lire en espagnol et après ferai la traduction française. Dice, el provincialismo, cuando abarca cierto número de kilómetros cuadrados, domínase nacionalismo. Se ha centralizado la idea de nación en términos tan universales como la idea de Dios. El grupo nacional lo sojuzga todo. Primero, la nación y todo lo demás respecto a ella. Einstein, ¿Ciencia? No. Ironizaba aquí Guillén sobre el servilismo de la postura nacionalista asumida por otro coronista de la visita de Einstein a París en Le Show de Paris. La ciencia no está, decía, dice ese coronista, la ciencia no está por encima ni extramuros de la razón, ni la ciencia ni nada. ¿Teoría de la relatividad? No. Teoría alemana, anatema sea. Je lis la tradition française. Le provincialisme, quand il atteint un certain nombre de kilomètres carrés, s'appelle nationalisme. L'idée de nation s'est centralisée en termes aussi universels que l'idée de Dieu. Le groupe national domine tout. En premier lieu, la nation et tout ce qui la concerne. Einstein, science, non. La science n'est pas au-dessus ni hors des murs de la raison. Ni la science, ni rien d'autre. Théorie de la relativité, non. Théorie allemande, qu'elle soit anathématisée. Face à l'irrationalisme de l'attention censurée, celle de Guillén, très opposée, se sent renforcée par l'attitude libérale des savants professeurs invités au collège. Une corporation, disait Guillén, en se référant au Collège de France, une corporation aussi éminente dans les institutions officielles. Parmi les assistants, garçons, disait Guillén, quelques dames, pas beaucoup, aucun snobisme cependant, mais des professeurs spécialistes et la présence remarquée de jeunes étudiants. Ce sont des mots de Guillén. Dans cette atmosphère, il ajoute, les premiers rangs où s'étaient placés les impugnataires se rendirent sans réserve à la magie de l'adversaire. Des distingués spécialistes, soulignait Guillén, qui, convaincus pour les savants allemands, démontraient leur assentiment modeste et reconnaissant. Tout ceci, concluait Guillén, parce que ce que comprenait cet auditeur, l'élite de la France, c'est qu'il y a des choses qui n'ont rien à voir avec les conflits entre nations, puisque la nation, insistait-il, n'est pas un concept ni une réalité überalles. La nation ne peut remplacer Dieu. Fin de la citation. Je finis. Le Dieu supranational et donc laïque de la culture et de la science qu'invoquait l'agnostique Jorge Guillén à la fin de cet article, il est appelé à la suprême entité spirituelle de l'absolu, bon et beau, sur lequel toutes les différences accidentelles et les nationalismes des intégrateurs d'alors et de maintenant les premières doivent se diluer pour faciliter l'apothéose finale de ces sens. C'est ainsi, dans ce lieu même où nous sommes aujourd'hui réunis, que le jeune Jorge Guillén de 1922, depuis son poste d'observation privilégiée de Paris, présentait l'essentiel d'une Europe commune désirée pour certains de ses citoyens les plus éclairés. Merci de votre attention.